BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, mais alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
18h, il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, mine de rien, l'Allemagne, première économie de la zone euro qui est officiellement entrée en récession. Les chiffres sont tombés ce matin, ils sont formels. On va vous raconter tout ça bien sûr dans un instant. Sinon, c'est le grand feuilleton qu'on suit sur BFM Business. Qui sera le prochain président ou la prochaine présidente du MEDEF? C'est la candidate Dominique Carla qui a présenté son programme hier, mercredi, qui sera avec nous dans 10 minutes pour en parler en direct sur BFM Business. Et puis alors sinon, c'est le grand salon dont on va parler pendant 3 jours. Ça se passe au Grand Palais éphémère à Paris, le salon Change Now, pour brainstormer sur un futur qui ne fait pas peur. C'est pas mal comme teasing ça. Et ben, c'est son cofondateur Santiago Lefebvre qui sera avec nous tout à l'heure à 19h15 pour en parler. Voilà le programme, non exhaustif bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h. C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc, on se doutait que ça allait arriver, les chiffres l'ont confirmé ce matin, l'Allemagne est entrée en récession officiellement. C'est un peu une surprise, pourquoi ? Parce que l'Allemagne entre en récession un petit peu à contre-courant finalement du reste des pays européens. Thomas Schnell.
C'est la douche froide dans la première économie de l'Europe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le PIB a reculé de 0,3% sur la période, après un recul déjà au quatrième trimestre 2022 de 0,5% au lieu de la stabilité anticipée à cause de l'inflation à 7% et de la crise énergétique. Hors Covid, de tels chiffres n'avaient pas été enregistrés depuis 2008. Une contraction qui a surpris les analystes. À la fin du mois d'avril, l'Office fédéral de la statistique allemande s'attendait encore à une stagnation au premier trimestre. Mais la chute de 1,2% de la consommation des ménages, la baisse de 3,3% de la production industrielle et celle de 4,9% des dépenses publiques ont eu raison de cet optimisme. En plus, le secteur automobile a été victime de la réduction des primes d'achat de voitures électriques. Le gouvernement d'Olaf Scholz continue de croire à l'inversion de la courbe en tablant toujours sur une croissance de 0,4% sur l'ensemble de l'année.
Voilà, l'Allemagne qui entre en récession un petit peu rebrousse-poil de la tendance européenne. Comment ça s'explique, on en parlera tout à l'heure dans le grand débat sur BFM Business. En France, par contre, ça va toujours très bien pour les cadres. Hein. C'est le dernier baromètre de l'APEC qui nous l'a dit ce matin. L'an dernier, vous avez 62% des entreprises qui ont dû relever les salaires pour garder les meilleurs talents face aux pénuries du moment. C'est 7 points de plus que l'année auparavant, nous a dit l'APEC donc ce matin. Par contre, là où ça ne s'arrange pas, c'est dans le logement neuf. C'est la Fédération des promoteurs qui nous l'a confirmé ce matin. Au premier trimestre, là, 2023, il n'y a jamais eu aussi peu de construction de logements neufs collectifs. Sauf que, écoutez ce que nous disait ce promoteur ce matin sur BFM Business, en fait, ça fait des années que c'est de pire en pire, finalement. Christophe Capelli, dirigeant de la société du même nom, écoutez.
Moi, j'appelle ça la crise combo, c'est-à-dire qu'on cumule tout en même temps. Ça fait déjà 4 ans que les promoteurs ont du mal à sortir les permis, 2018-2019, c'était la veille des élections municipales. Il y a eu les différés des élections municipales, donc il y a encore différé d'un an, donc les permis ne sortaient pas. Là, c'est assez amusant, mes collaborateurs commencent à m'expliquer que les élus leur reparlent maintenant des élections 2026. Donc on se dit, tiens, on pensait avoir fini dans cette roue de tourner comme un hamster, mais en fait non, c'est sympa, il y en a un qui a trouvé quelque chose et puis on va continuer à faire des tours. Et puis vous avez l'effet explosion des coûts des travaux l'année dernière, hein, puisque le coût des travaux a augmenté de plus de 30% dans l'année.
Voilà Christophe Capelli, promoteur un petit peu désabusé par la situation, il était ce matin avec nous sur BFM Business. 18h04, il ne s'exprime que 2 fois par an. Il a parlé ce matin devant les parlementaires à l'Assemblée, c'est le patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Et il a lancé un avertissement à EDF, vous savez, qui est chargé de concevoir les futurs EPR du parc nucléaire français. Il l'a dit très clairement, il va vraiment falloir qu'EDF s'adapte parce que, compte tenu du changement climatique, ces EPR pourraient vite être dépassés par les événements. Écoutez, Bernard de Rozuc.
Les nouveaux réacteurs, EPR2, sont des réacteurs qui seront, s'ils sont mis en place, bien sûr, vraisemblablement en fonctionnement à la fin de ce siècle. Les conditions climatiques auront changé à la fin de ce siècle. Et donc, dans la conception des EPR2, il faut envisager quelles sont les évolutions qui seraient possibles ou qui seraient nécessaires sur les installations pendant toute cette période de temps.
Voilà l'avertissement de Bernard de Rozuc ce matin, le président de l'autorité de sûreté nationale qui était auditionné à l'Assemblée nationale. Et puis alors, puisqu'on parle énergie, c'est Tournant important, figurez-vous que cette année, au plan mondial, on va investir plus d'argent dans le solaire que dans le pétrole. Ça, c'est ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport. Et c'est vraiment, vraiment tout un symbole. On voit tout ça avec Raphaël Couder.
Le solaire est la star des investissements énergétiques mondiaux, selon l'Agence internationale de l'énergie. Désormais, plus d'un milliard de dollars est dépensé chaque jour pour construire ou déployer des panneaux solaires, ce qui fait qu'en tout, sur l'ensemble de cette année, les investissements devraient dépasser les 380 milliards, un montant record, et c'est une première, un montant qui est même supérieur aux investissements dans le pétrole. Plus largement, les investissements dans l'ensemble des énergies renouvelables vont cette année encore surpasser largement les dépenses dans les énergies fossiles, une tendance qui est portée par la reprise de la croissance après le Covid. Et surtout, depuis un an, la guerre en Ukraine a suscité beaucoup d'inquiétudes sur la volatilité des prix de l'énergie, ce qui a accéléré les investissements dans de nombreux pays. Aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act a par exemple joué un rôle considérable. En revanche, l'AIE pointe du doigt les géants pétroliers et gaziers malgré des engagements ambitieux. Sur le papier, leurs investissements verts n'ont représenté en moyenne que 5% de leurs investissements dans les énergies fossiles.
Raphaël Couder, c'est le titre qui s'envole en ce moment à New York. Nvidia, géant des processeurs, qui a livré hier soir des prévisions qui ont beaucoup plu au marché, qui semble bien positionné pour profiter des opportunités de l'intelligence artificielle. Le titre progresse de 20 à 25% et se rapproche des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Sabrina Cagliosi nous racontera tout ça depuis New York dans une heure. Et puis Chanel, toujours plus haut, toujours plus fort. Les ventes mondiales du groupe se sont élevées l'an dernier à un peu plus de 17,2 milliards d'euros. C'est un nouveau record absolu, bien évidemment. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, Étienne Braque, bonsoir. Euronext à la Défense, comment s'est passée cette belle séance, bonsoir, mon cher Étienne?
Eh bien, c'est une quatrième séance consécutive dans le rouge pour la Bourse de Paris. Une série que l'on n'a pas vue depuis mi-mars et le stress bancaire aux États-Unis. Un CAC 40 qui se rapproche un peu plus des 7200 points. 7229 points ce soir au fixing. Alors à Paris, on n'a pas beaucoup de valeurs technologiques. Alors ce qui fait que l'effet Nvidia a été un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Mais notons quand même Soitec qui gagne plus de 8% ce soir à la clôture. Vous avez l'Eurostock 50 qui s'en sort très bien grâce à ASML. Vous savez, c'est l'une des plus grosses entreprises technologiques en Europe. C'est plus de 200 milliards de capitalisation boursière, ils font des machines pour fabriquer des semi-conducteurs. Bah, vous avez ce titre qui gagne plus de 4,9% ce soir à 652 euros. Et puis le secteur du luxe qui faisait un petit peu la tête en milieu de semaine après notamment une recrudescence de cas de Covid en Chine se reprend aujourd'hui car Chanel dit que vous avez des ventes dynamiques en Asie malgré le fait que vous avez des cas de Covid. Hein. Donc vous avez LVMH qui reprend 0,7% à 823 euros ou encore Hermès 1,5% à 1914 euros. Et puis tiens, l'intelligence artificielle, est-ce que ça à pénaliser ou pas le métier de téléperformance? Ben, c'est la grosse question qui se pose. Et aujourd'hui, un titre qui perd plus de 5% à la clôture à 147,35 euros. Un dernier mot sur les cours du pétrole, car on a une baisse très notable, moins 3,6% pour le Brent qui redescend sous les 76 dollars, avec la Russie qui, pour l'instant, exclut réduire sa production de pétrole, le tout à quelques jours de la réunion de l'OPEP+. Et ça, ça pénalise Total Energy qui perd plus de 3% ce soir à la clôture à 55 euros. Et donc, la Bourse de Paris qui clôture ce soir en baisse, petite baisse, moins 0,3% au fixing à 7229 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment, à la mi-séance. Le Dow Jones qui cède 0,45%, 32 650 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui gagne 1,4%. Nvidia y est pour quelque chose, évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Hein. 12 657 points. 18h09, elle se présente à la présidence du MEDEF. Dominique Carlac est notre invité tout de suite sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
Bonsoir Madame Carlac, installez-vous. Merci beaucoup de passer nous voir ce soir sur BFM Business dans ce qui est une campagne marathon. C'est un sacré rythme quand même, une campagne de joueurs, Madame Carlac. Hein,
c'est un rythme, c'est pas un marathon d'abord.
C'est pas un marathon.
Non, c'est pas un marathon. C'est plus proche de 400 mètres, qui était ma spécialité.
Ce qui est votre spécialité.
Ça demande de la résistance en fait, et ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. En allant vite, donc c'est la définition de la résistance dans une épreuve sportive. Et puis ça me rappelle aussi la création de mon entreprise. Ouais. Quand j'ai créé mon entreprise, vous comptez pas vos heures, vous avez de l'énergie, vous y croyez tellement que vous n'avez pas de problème d'énergie, parce qu'il faut rassembler beaucoup d'énergie intellectuelle, psychologique et physique. Et ça me rappelle, cette campagne me rappelle ma création d'entreprise.
Donc, c'est une étape importante, évidemment. On va parler de votre programme. Juste un mot, parce que vous étiez nouveau il y a quelques semaines, en déplorant quand même un manque de dialogue entre les différents candidats. Est-ce que ça va mieux déjà, madame Carlotte?
On va avoir un débat.
On va avoir un débat sur BFM Business le 26 juin. Bien
on aura
sûr,
un débat chez vous, donc ça c'est bien, je suis contente d'avoir fait bouger les lignes.
Ça s'est décanté ces dernières semaines?
Déjà, le fait qu'on ait réussi à tomber d'accord sur une date, ça permet de se dire, grâce aux propositions que j'ai poussées, on aura une vraie compétition, parce que maintenant on n'est plus que deux, donc on sera sur le même terrain de jeu. Et puis, puisque c'est une élection, parce que c'est quand même une élection, on aura le choix, on va donner le choix aux électeurs de choisir entre deux personnes, deux programmes, deux visions. Et je suis contente qu'on puisse choisir et donner, parce que le collège électoral a doublé, c'est élargi, donc c'est important que les électeurs puissent choisir.
Alors deux programmes, justement, Patrick Martin a présenté le sien mardi, vous c'était hier, son mantra lui, on l'a vu, c'est la croissance. Le vôtre, c'est quoi dans cette campagne, Madame Carlac, finalement?
Quand on veut être président du MEDEF, je dirais que la croissance, c'est une évidence.
Mais c'est pas un tout.
Donc, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand vous êtes président du MEDEF, vous êtes pour la création de richesses, bien évidemment. Ouais. Moi, je dis qu'il y a quelque chose en plus à faire. Il faut que cette croissance, elle soit durable. C'est-à-dire qu'on puisse se doter des conditions pour pérenniser la création de richesses. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas pérenniser la création de richesses? C'est quand on n'a plus de carburant, c'est quand on n'a plus de ressources humaines qui ont envie de travailler pour nos entreprises. Et donc, moi, je dis qu'en plus de la croissance et de la création de richesses, il faut aussi se dire, il faut le faire durablement et trouver les personnes qui ont envie de travailler et rester dans nos entreprises.
Ça, c'est un peu votre mantra à vous, c'est questionner l'évolution de notre rapport au travail, finalement. On a l'impression que c'est ça, votre grand sujet de prochaine semaine. Mais est-ce que c'est les attentes véritablement de vos adhérents? Est-ce que ça colle aux attentes de vos adhérents?
Oui, bien sûr, parce que si vous voulez pérenniser de la création de valeur, il ne faut pas qu'il y ait des coups d'arrêt. Il ne faut pas que toutes les entreprises, les fédérations, les territoires disent, moi, mon problème numéro un, et c'est ce que j'entends, moi, sur le terrain, mon problème numéro un, c'est le recrutement. Ce matin, j'étais en audition à la Fédération française du bâtiment, grosse fédération chez nous, qui compte vraiment. Une des cinq questions qu'ils m'ont posées et qu'ils ont posées aux candidats, c'est, qu'est-ce que vous faites pour le recrutement? Et moi, je leur ai répondu, je veux faire du recrutement une grande cause nationale du MEDEF. Parce que si on n'a pas un sujet recrutement sur la table le 7 juillet 2023, la création de valeur, on aura du mal parce qu'on n'aura pas ce qu'il faut pour pouvoir, dans la dynamique de croissance qu'on veut avoir les personnes. Du coup, si vous parlez du programme, moi, le sujet que j'ai mis au cœur de mon programme, c'est le travail.
Oui.
C'est vraiment le travail dans un contexte politique où, de toute façon, le troisième tour social, on voit bien vers où il est fléché. Il est fléché vers les entreprises.
Oui.
Et je vois gros comme une maison que organiser le travail, on va être très attendu par le gouvernement et les syndicats. Et organiser le travail, moi, je l'ai mis au cœur de mon programme parce que ça pourra jamais vouloir dire travailler moins.
Alors justement, est-ce que vous, c'est-à-dire, on croit qu'on, vous n'êtes pas une aficionados du travailler plus, qui est un marqueur fort du patronat aujourd'hui?
Je ne suis surtout pas une aficionados de travailler moins. Voilà.
Mais pas du travailler plus non plus.
Je suis une aficionados d'être en phase avec comment on peut, tout au long de la vie, travailler. Vraiment tout au long de la vie. Et aujourd'hui, on a des trappes à inactivité, à inemployabilité. Et c'est ça qui nous tue en France. Il faut absolument remettre ce débat au cœur du sujet. C'est comment on fait pour faire en sorte que le travail paye toujours plus à l'inactivité, tout au long de la vie. Que ce soit en entrée, au milieu de carrière, et donc on puisse s'offrir des trajectoires.
Et ça, vous dites, votre pari, c'est que vous saurez en parler avec les syndicats. Alors, avec les nouvelles numéro 1 de la CGT, de la CFDT. On a noté votre petite phrase, bon, j'ai leur 06, elles ont mon 06. Est-ce que vous pensez que vous pourrez faire mieux que d'autres avant vous, en l'occurrence, redonner un second souffle au paritarisme? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, finalement, dans l'histoire.
Les syndicats se sont renouvelés, les syndicats de salariés se sont renouvelés. C'est vrai qu'on a des nouvelles têtes. Alors, il se trouve que je les connais, oui, puisqu'il se trouve que ces nouvelles têtes étaient numéro 3-4 dans leur organisation respective, et que moi, j'étais aussi numéro 3-4 dans mon organisation patronale MEDEF, et que de ce fait, quand vous avez les numéros 1 qui se rencontrent, les numéros 2 qui se rencontrent, ben, les numéros 3-4, ils se rencontrent aussi pendant un mandat. Donc, on se connaît. C'est une autre vision. C'est effectivement une autre vision. On a la même chose côté gouvernement. Donc, je dirais que les représentants de la nation, qu'ils soient patronaux, syndicaux, gouvernementaux, se sont renouvelés. Il y a une certaine forme de cohérence avec une époque.
Oui.
Et donc, moi, c'est ça que je dis aussi, c'est qu'il va falloir pouvoir travailler ensemble. Et le dialogue social, c'est-à-dire le travail entre les syndicats de patrons et les syndicats de salariés, ça va être la clé pour préparer les années 2030.
Vous dites ça va être la clé. Donc, ça il faut pouvoir convaincre vos adhérents, effectivement, vos électeurs.
Ça va être la clé. Et le fait de les connaître bien, alors pour deux raisons, pour trois raisons en réalité. C'est un, on était dans la même position, donc on se rencontrait. Deux, on a beaucoup été sur les sujets égalité pro, etc., ensemble. Puis trois, il se trouve que dans mes fonctions sur la gouvernance des Jeux Olympiques de Paris, je suis coprésidente aux côtés de Bernard Thibault du comité de la charte sociale où il y a les 8 organisations patronales et syndicales qui travaillent sur des enjeux sociaux et économiques ensemble. Donc ça fait depuis 2015, donc ça fait quand même un bout de temps.
Vous avez comme des éléments de convergence avec Patrick Martin, mais enfin ça on s'en doutait aussi. Vous dites vous voulez alléger le coût du travail qualifié, il veut lui aussi alléger les cotisations au-delà de 2,5 SMIC, vous retrouvez ça aussi sur les impôts de production. Sur alléger le coût du travail qualifié, vous dites effectivement il faut... recréer de l'attractivité sur certaines professions.
En observation et en remarque, on est quand même dans la même maison. C'est une élection interne.
Évidemment.
Donc ce serait étonnant qu'il y en ait un qui se dégage en disant je veux plus d'impôts, puis l'autre moins d'impôts. Donc je pense qu'on sort de la même maison.
Oui, d'accord. Ouais.
Et moi, mes états de service d'engagement patronal, ça date d'il y a 25 ans, d'abord dans mon syndicat professionnel, et puis depuis 10 ans, je suis hyper impliquée dans le MEDEF national. Donc il n'est pas étonnant que deux candidats à la présidence du MEDEF aient des similitudes de combat, on va dire. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est que... je vais répondre à votre question sur le travail qualifié. En fait, aujourd'hui, si on veut une France industrielle, si on veut réindustrialiser le pays, il faut absolument que pour avoir une industrie forte, on ait une ingénierie forte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que notre industrie soit pilotée, conçue, organisée par de l'ingénierie qui est à l'étranger.
Oui.
Et l'ingénierie qui est à l'étranger, ça peut être par exemple les équipes d'ingénieurs indiens qui sont tout aussi bien formées que les nôtres. Et puis on peut lentement mais sûrement offshoriser, en mauvais français, ces fonctions de conception et d'ingénierie. Si on fait ça, on n'aura plus d'industrie. Et donc moi, mon combat, c'est de se dire, si on est sur cet emploi qualifié qu'on retrouve dans l'ingénierie, qu'on retrouve aussi dans les services type assurance, banque, on va avoir affaire à une population qui va petit à petit se paupériser, qui va être concurrencée par des pays où l'ingénierie et ses métiers de service coûtent moins cher. Et donc, globalement, si on ne travaille pas là-dessus, c'est notre prochaine vague de colère sociale dans la rue et qui s'exprimera, je pense, très très vite en 2027.
Comment est-ce que vous regardez l'ambition du gouvernement qui est de revenir au plein emploi à 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat? Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer de plus pour aller vers cet objectif, vous, finalement?
Alors, déjà, la première chose, c'est que cette idée du plein emploi, elle est ressortie plutôt du côté des entreprises. C'était pas comme ça que c'était présenté au début. Si vous avez suivi l'activité, là, cette proposition de retrouver le plein emploi, elle est plutôt venue de chez nous. Bien sûr qu'il faut le plein emploi. Ce qu'il faut surtout, c'est se dire comment j'assure l'emploi dans la carrière. Comment j'assure des trajectoires d'emploi? Parce qu'aujourd'hui, c'est assez... Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un emploi qu'il y a quelques années où c'était vraiment la crise. Ce qui est difficile, c'est d'être employable tout au long de la vie, parce que, comme je vous le dis, il y a des trappes, il y a une employabilité, et c'est là-dessus que nous, on doit se mettre. C'est, bien sûr, le plein emploi, c'est une chose, mais vous regardez le stock. Ce qu'il faut regarder, c'est le flux. C'est se dire, est-ce que j'ai régulièrement des générations qui sont inemployables, ou des qualifications qui font que je ne suis pas employable, ou des territoires où il y a moins d'employabilité.
Ouais.
Donc moi, mon combat, il est plus sur la trajectoire d'emploi, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette sur toutes les générations.
Il reste quoi, 5-6 semaines de campagne, Madame Carlac, avec Patrick Martin. On se demande si vous en gardez sous le pied des propositions. Parce qu'on se demande, quand on regarde vos programmes, le vôtre ainsi que celui de Patrick Martin, on se dit toujours... Ah, est-ce qu'il manque pas une proposition un petit peu disruptive, en l'occurrence, qui pourrait détonner par rapport à ce qu'on entend habituellement du côté du patronat? Vous n'avez pas envie de profiter, un grand big bang fiscal au gouvernement, justement, pour créer des emplois, de l'attractivité dans les prochaines années? Moi, vous en gardez sous le pied des propositions.
Le Big Bang que j'ai proposé, c'est pas un Big Bang en tant que tel.
Est-ce qu'il manque pas une mesure un peu disruptive dans ce que vous proposez, vous et Patrick Martin aujourd'hui, voilà. Finalement.
Le patronat et le MEDEF, nous sommes les descendants de l'organisation patronale il y a 100 ans où tout était axé sur le social et les relations sociales entre employeurs et salariés. Il y a eu après l'économique qui s'est invitée. Et l'économique, c'était comment je rends plus compétitive mes entreprises. Aujourd'hui, le grand sujet à installer au même niveau, c'est les transformations, c'est les transitions, qu'elles soient démographiques, écologiques, énergétiques, alimentaires, sanitaires. Parce qu'on a bien vu que si nous, on n'est pas à la manœuvre sur ces transitions, ça viendra d'ailleurs. Or, on veut de la souveraineté.
Oui.
Donc, je ne dis pas que c'est le Big Bang et le grand soir, mais ce que je dis, c'est que moi, dans mon organisation et dans mon programme, on a bien le social, on a bien l'économique, mais on a aussi les transformations dans une logique de souveraineté et presque d'indépendance, sans être dans le repli, en disant il faut absolument qu'on garantisse à nos concitoyens les usages de base dont ils ont besoin par nos entreprises. Ça, c'est pas forcément disruptif, mais en tout cas, c'est se dire les transformations.
Oui.
Si on prend la question de la démographie, par exemple, c'est un truc à installer au MEDEF. La transition démographique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le grand âge. Ça veut dire que dans notre organisation patronale, on a tous les maillons pour offrir des solutions pour le grand âge, pour des solutions pour l'accueil du grand âge. Pourquoi? Parce que l'État, je ne crois plus tellement à l'État-providence, en fait. En revanche, je crois plutôt aux entreprises qui offrent des solutions.
Est-ce que vous croyez en l'État qui nous expliquait il y a quelques jours comment il allait piloter la transition énergétique et l'accélération de la décarbonation?
Moi, je crois plus aux entreprises en matière pour les solutions dès lors qu'on réunit deux conditions. Un, qu'on croit au progrès, qu'on ne soit pas dans une logique décliniste, de décroissance, etc. Et d'autre part, qu'on ait les marges de manœuvre et les moyens de le faire. Et là, on a un vrai sujet, qui est que oui, on paye toujours plus de charges, il va falloir se battre par rapport aux pays de l'OCDE, mais surtout, on a une complexité administrative qui fait que si on ne fait pas l'éducation au niveau européen, en continu, en task force, au niveau européen, pour revenir avec des buts de guerre qui sont une meilleure régulation, on n'y arrivera pas et on sera vraiment les dindons de la farce de la compétition mondiale.
Bâtir un MEDEF de notre temps, là, c'est un de vos crédos de campagne. C'est pas une petite pique, ça, à l'équipe sortante, finalement, et indirectement à votre challenger.
Pourquoi je dis ça? Bâtir
un MEDEF. Pour être dans les petites phrases, mais c'est la vôtre, celle-là. Voilà.
Tout à fait. Ça. Bâtir un MEDEF de notre temps, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, ne restons pas prisonniers du logiciel 2018, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis 2018, qu'on ne peut pas se dire je m'inscris simplement dans la continuité.
Dites pas Patrick Martin est l'homme de 2018, finalement. C'est pas ça l'idée.
Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas s'inscrire exclusivement dans le confort de la continuité. Je dis qu'il faut être un peu plus offensif et se dire on ferme les yeux, tous, les votants, les candidats, et on se dit qu'est-ce qu'on prépare pour 2030, nous, les entreprises? Qu'est-ce qu'on prépare en matière de travail, de souveraineté et de transformation en 2030? Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas s'installer dans le confort de la continuité, puis le mandat, il dure 10 ans. Non, en fait, c'est un nouveau mandat, 23-28, qui prépare les années 30.
2030. Merci beaucoup, Dominique Allac. Merci de passer nous voir. Voilà, début, alors, suite de cette campagne, vous avez présenté le programme Échéance le 30 mai, mardi prochain.
30 mai, audition devant nos électeurs.
La campagne qui continue sur le terrain, on imagine que c'est une campagne de tous les instants, tous les jours.
C'est les auditions. En fait, on est passé du off. Le off, c'était les parrainages, au on, avec les auditions, avec nos adhérents.
Et puis le 26 juin, on va le revoir à la télé, à l'écran, si vous nous voyez. Le grand débat, ça sera 18h-20h en direct sur BFM Business. Entre vous-même, Dominique Carlac et Patrick Martin, évidemment, les deux candidats à la présidence du MEDEF. Merci beaucoup, Dominique Carlac. Merci de passer nous voir, vice-présidente, porte-parole du MEDEF et donc candidate à la présidence du mouvement patronal. Merci beaucoup de passer nous voir. Le grand débat est dans un instant jusqu'à 19h sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h27, c'est l'heure du grand débat jusqu'à 19h. François Girolf est avec nous. Bonsoir François, bienvenue, économiste à l'OFCE. Eric Lewin est avec nous. Bonsoir Eric, rédacteur en chef des publications Agora. Puis Emmanuel Le Chypre pour BFM Business. Bonsoir Emmanuel. Bon, écoutez, Dominique Carlac, là, la présidente... pardon, lapsus, j'en sais rien, on verra. Candidate... Candidate à la présidence du MEDEF. Encore 6 MEDEF. Elle vous plaît, cette campagne du MEDEF, ou elle vous laisse complètement... C'est un non-événement pour vous, ou comment vous... Manuel.
C'est pas un non-événement, parce qu'il va quand même y avoir un sacré paquet de dossiers importants sur la table à gérer dans les 4 ans qui restent du mandat d'Emmanuel Macron, puisqu'on va apparemment s'attaquer au sujet du travail.
Oui.
Et Dieu sait s'il va y avoir des sujets, nouveaux. Parce que là, on a quand même eu des débats qui étaient quand même des débats d'il y a 30 ans. ça c'est côté proposition gouvernement, c'est-à-dire qu'en gros cette réforme des retraites, elle répond quand même à des sujets qui étaient ceux d'il y a 30 ans. Mmh. Le problème c'est que les contre-propositions qu'on avait en face, elles dataient plutôt d'il y a 50 ans.
Et
c'est
du MEDEF, ça vous semble
tout... Alors justement, je pense qu'il y a tout à écrire sur le sur les. Prenez par exemple toutes les simulations qu'on a eues, des études sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'emploi, etc. Quand vous regardez toutes les études dont on parle aujourd'hui, faites par les grands cabinets de conseil, l'OCDE, etc. En fait, vous vous rendez compte que c'est des études qui ont été faites il y a plusieurs mois. Et il y a plusieurs mois, personne, en fait, n'avait évalué à sa juste mesure l'irruption de ChatGPT. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Vous voyez la vitesse à laquelle ça va. Donc, on peut même dire que ce qu'on nous a dit sur les bouleversements qu'allait provoquer l'intelligence artificielle sur le monde du travail, c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer.
Je ne sais pas si les candidats à la présidence du MEDEF en parlent, entre parenthèses.
Si. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour, vous demandiez pourquoi. C'est important cette campagne parce que effectivement c'est important de savoir qui dirigera la première organisation patronale de ce pays. Après, moi je pense qu'effectivement ça peut jouer sur la sensibilité. Après, la réalité c'est qu'il y a,
c'est l'épaisseur du trait.
Oui, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est plutôt sur des différences de
Eric,
tempérament.
Il y en a un qui est plus sur le social et l'autre qui est peut-être plus un peu pour produire plus.
La croissance, vrai, la croissance, le plein emploi.
Je suis pas sûr que ça passionne la France entière cette élection à la présidence du MEDEF.
Effectivement, il y a des défis, mais peut-être pas effectivement les bonnes questions qui sont posées dans ce. Je sais pas, non, François, vous comment vous.
Il n'a pas d'idée, François, immédiatement.
Non, oui. Moi, j'ai pas. Moi,
bon, ça vous intéresse
pas parler. Je vais pas parler de ce que je connais pas. C'est vrai que
François,
là, je vous avoue.
Même
que...
Regardez la photo. La photo qu'on avait à la fin des manifestations sur les retraites.
Ouais.
Sept hommes blancs de plus de 50 ans. Vous allez arriver.
D'ailleurs, nous en sommes quatre. Enfin, pas
non,
plus de 50 ans.
Mais... Ce que je veux dire, c'est que six mois plus tard, si Dominique Carac est élu à la tête du MEDEF, vous aurez quand même. Pas loin d'une majorité des grands représentants de partis qui seront des femmes. Ça c'est pas neutre non plus. Donc je pense que non, c'est pas neutre. Après sur la stratégie fiscale,
sur les différences idéologiques, il y en a pas beaucoup.
Compétitivité, etc. Il y a pas
tout effectivement. Tout le monde veut baisser les impôts de production.
Des différences.
Tout le monde veut que le travail se passe mieux. Tout le monde veut optimiser la production.
Oui, mais c'est une organisation. Attends, c'est quand même une organisation dans laquelle il y a des choses à faire. Attends, objectivement, est-ce que vous avez connu? Alors si vous avez un chouille pénétrer les arcanes du MEDEF, est-ce que vous avez vu organisation plus bureaucratique et plus effrayée par elle-même que le MEDEF? Non, franchement.
Vous pensez qu'elle allait dire les syndicats, mais même.
Ah non, mais franchement, le MEDEF, c'est bon. Si vous voulez, ils ont tous peur quand ils sont sur une idée, ils se disent ah là là, mais que va dire la branche service? Mais que vont dire les petites entreprises? Donc il y a quand même une idée aussi d'essayer de que tout le monde tire dans le même sens.
Eh ben, ça nous fait encore 6 semaines de campagne. On suivra ça bien sûr sur BFM Business. Le grand débat entre les deux candidats sera le 26 juin évidemment. On aura le temps d'en reparler. 18h31. Allez, on marque une petite pause pour redonner les titres.
Good evening business, le débat.
Allez, le grand débat jusqu'à 19h avec François Girolf, avec Eric Lewin et avec Emmanuel Le Chip. Alors, on regarde l'Allemagne aussi, hein, on voulait en dire un mot ce soir parce que les chiffres sont tombés ce matin, l'Allemagne est en récession. Bon, c'est pas la mort du petit cheval non plus, mais enfin, c'est pas l'épaisseur du trait. Alors, attendez. Moins 0,3% pour le PIB, après moins 0,5% au précédent. Un, c'est un peu à contre-rebours de ce qu'on voit en Europe. Et deux, qu'est-ce que vous dites finalement? C'est bon, elle s'en remettra? Ou alors, ça confirme que les grands repères de l'économie allemande se sont un peu tous effondrés finalement depuis 2 ans. François, comment vous regardez ça, vous, la situation?
Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout une faiblesse de la consommation des ménages. C'est lié à l'inflation énergétique. Et ça nous rappelle que l'inflation, enfin le choc qu'on connaît actuellement, c'est à la fois un choc d'offre, comme on dit souvent, mais c'est aussi un choc de demande. C'est-à-dire, évidemment, quand vous devez dépenser plus pour votre énergie, vous pouvez dépenser moins pour le reste. Et donc, il y a un problème de pouvoir d'achat en Allemagne. Ils ont été moins protégés, les ménages en particulier, de l'augmentation des prix de l'énergie par rapport à la France, par exemple. Et donc, la consommation commence à faiblir, en particulier la consommation des ménages qui sont en difficulté financière. Le gouvernement a moins protégé que les ménages français et donc ça se voit dans la consommation et dans la croissance. Pour le moment, en France, on a choisi de financer ça par l'endettement, de maintenir la consommation et ça marche.
Il y a un sujet autour du modèle économique allemand, on a parlé là, effectivement, prix du gaz qui s'envole, effectivement, l'évolution de la demande de la Chine, le parapluie américain, ça, est-ce que ça...
Et puis surtout la problématique de l'IRA, vous savez que l'année dernière, il y a eu 25 milliards d'investissements étrangers en Allemagne. Cette année, ça sera sans doute inférieur. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à se poser. Mais au-delà de tout ça, moi, j'aimerais pas être à la place de Christine Lagarde ce soir. parce que qu'est-ce qu'elle va faire sur les taux avec la principale économie de la zone euro qui ralentit nettement? Est-ce qu'on va avoir ces 75 points de hausse des taux qu'on attend encore pour avoir 4% à la fin de l'été? Est-ce qu'elle va aller moins fort, étant donné qu'on a le sentiment quand même qu'on a une inflation toujours forte en Europe? Il y a une vraie problématique autour de la BCE qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, qui n'a pas été encore abordée par les médias. Mais je crois que la vraie problématique, elle est là, au-delà des chiffres qui montrent quand même que c'est une faible récession, parce que on sait très bien
que la fin de l'année
sera sans doute meilleure pour l'Allemagne, mais grosse interrogation pour moi pour la BCE.
Ouais. Autour de l'Allemagne, même question que je posais à Eric, est-ce qu'il y a une interrogation autour de l'avenir du modèle économique allemand? Est-ce que c'est une économie qui doit se réinventer pour vous, là, un petit peu rapidement,
Emmanuel? Alors, dans un premier temps, on nous aurait dit, il y a un an, l'Allemagne va être privée de 30% de son approvisionnement en gaz, et au final, ça ne se traduira que par une mini-récession. Franchement,
je pense qu'on aurait quand même pensé
que l'activité encaisserait davantage.
Alors, faut voir que l'Allemagne avait du chemin à faire par rapport au Covid. Elle était censée croître d'environ 3,5%, et là, elle est à peu près à zéro. Donc, en fait, le différentiel, c'est quand même 3,5%. Enfin, c'est beaucoup moins peut-être
qu'on aurait pu imaginer. Par rapport à l'ampleur du choc, c'est quand même une belle résistance. Oui. Après, c'est un peu le mot que moi qui me vient sur tous les sujets. Quand on voit alors Eric dit le problème c'est l'IRA, etc. Mais je suis désolé. Quand vous voyez aujourd'hui toutes les annonces de grandes usines qui se construisent en Europe, c'est quand même en Allemagne.
Il y a eu qu'une telle l'année dernière qui a mis 17 milliards sur la
table. Non, mais là on a eu Elon Musk. Là on a encore des discussions.
Mais les montants seront en baisse, Emmanuel, par rapport à l'année dernière.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, compte tenu de tous les vents contraires que le pays affronte, je trouve que c'est quand même une bonne résistance. Après, oui, effectivement, c'est un pays qui est confronté à un certain nombre de défis à relever, du sous-investissement passé, son modèle énergétique doit encore considérablement évoluer.
Son modèle industriel a été très très touché par la crise quand même. Elle s'était spécialisée dans des activités très intensives en énergie, donc la chimie, etc. Tout ça, ça va quand même... c'est en train de partir dans d'autres pays, donc ça...
Est-ce que vous inquiétez plus que ça pour la... Je lisais le commentaire d'un intervenant de marché qui dit que l'Allemagne est très largement considérée comme le potentiel mouton noir de l'Europe. Peut-être pas exagéré quand même. Enfin, je veux dire...
Mouton noir sur un plan structurel, parce qu'effectivement, peut-être que les grands secteurs dans lesquels l'économie allemande est championne, c'est quand même ceux qui sont les plus challengés aujourd'hui, et on n'a pas parlé de l'automobile encore, où là, effectivement, l'Allemagne est quand même en difficulté. Ouais, après, vous n'avez pas... à la différence d'autres pays, des déséquilibres majeurs dans l'économie allemande qui pourraient dégénérer, comme c'est le cas en Italie, comme c'est le cas dans une moindre mesure en France, avec des finances publiques mal tenues, des déficits très importants à l'extérieur, etc. Donc il peut y avoir une crise de modèle pour l'Allemagne, mais qui sera lente à traiter. Après, mouton noir, non, ça peut être un frein, oui, mais c'est pas un mouton noir.
En tout cas, sur les marchés financiers, c'est pas du tout un mouton noir, parce que le DAX gagne 13% depuis le début de l'année. Alors, le DAX, c'est pas l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de multinationales. Mais moi, je suis assez d'accord avec Emmanuel. C'est une crise structurelle, parce qu'on sait que l'industrie représente 26% du PIB. Et avec tout ce qu'on a eu l'année dernière, c'était normal que le pays subisse un fort ralentissement. Dans ce qui est assez drôle, c'est de voir quand même la très bonne tenue des pays Espagne, Italie, Portugal, qui font nettement mieux. Si on nous avait dit ça il y a 10 ans, je suis pas sûr qu'on aurait signé.
Mais moi, en tant qu'économiste keynésien, je vais dire que ça montre quand même que la politique de demande, ça marche. Enfin, quand vous maintenez le pouvoir d'achat des ménages, en fait, par rapport à la consommation, c'est quand même assez difficile de dire que ça se voit pas dans le PIB. Après, le problème, c'est le déficit extérieur, comme vous l'avez rappelé. Et de ce côté-là, l'Allemagne a beaucoup moins de problèmes. Mais quand même, le ministre des Finances allemand est très averse à la dette, très averse à la dépense de façon générale. Mmh. On peut se demander, comme d'habitude, si l'Allemagne pourrait pas quand même un petit peu lever le pied sur le frein à la dette, parce qu'il pourrait quand même faire beaucoup plus.
Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel? Le keynésianisme, ça marche finalement, quoi qu'on en dise?
Je vous provoque un peu, mais...
Non, mais après, tout dépend, si vous voulez, quand vous mettez de l'essence dans votre moteur, tout dépend de la qualité de votre moteur, après. Vous voyez, si vous mettez...
Si vous mettez
du carburant dans une économie qui n'est pas capable, finalement, d'absorber de façon satisfaisante ce carburant, ça marche pas. Si vous donnez du pouvoir d'achat aux gens pour qu'ils achètent tous les produits qui sont fabriqués à l'étranger, etc. Bon, on peut pas dire que ce soit une très bonne idée. Donc moi, je veux bien qu'on fasse de la relance de la demande, mais quand votre outil productif est en état de marche, et à chaque fois en France, c'est toujours ce qu'on a eu tendance à faire. En 81, pourquoi c'est la catastrophe? Parce que l'outil de production français est exsangue et que on est incapable de répondre.
Mais alors, par rapport par rapport à ça, on pourrait dire que la commande publique devrait un petit peu plus favoriser les entreprises nationales pour dire on stimule le tissu productif national. Comme ça, en plus, on crée de l'épargne localement, on diminue le déficit commercial. Ça permettrait...
De toute façon, la commande publique, de toute façon, on vit dans une économie qui est totalement socialisée.
Donc justement.
Il y a la commande publique, quand vous voyez tout ce qu'on nous raconte sur les investissements qu'il va falloir faire pour la transition écologique, etc., on voit bien que tout ça, ça va être de la dépense publique. Donc on est durablement entré dans une période de socialisation de nos économies, oui. Parce que c'est écrit dans le rapport du plan en toutes lettres, de France Stratégie. C'est que là, la transition, la nouvelle révolution industrielle, c'est pas l'affaire des entreprises, c'est pas l'affaire de l'innovation, c'est pas l'affaire des marchés, c'est l'affaire de l'État qui va piloter tout ça.
On parlait tout à l'heure avec Dominique Carlac, le gouvernement s'est bien chargé de nous le rappeler l'autre jour, finalement. C'est Matignon que ça va se faire, finalement. Cette accélération, la décarbonation de l'économie.
Un rêve d'énarque, quoi.
Un rêve d'énarque.
Ils vont mettre de la réglementation.
Ben voilà, c'est ça, ils vont faire ce qu'ils savent faire.
Mais il ne va pas y avoir un service public de la rénovation énergétique. Ça va quand même être de l'initiative privée qui va effectivement se fixer sur des réglementations.
Mais le problème de l'initiative privée, c'est qu'elle ne fonctionne que quand il vous reste encore quelques marges de manœuvre pour prendre des initiatives, justement. Or là, quand on voit qu'à part des réglementations, on ne va pas nous proposer grand-chose. Bon voilà, moi j'ai fait une proposition qui était d'offrir... Moi, je fais une proposition, sérieusement, qui est d'offrir à chaque famille française une nouvelle voiture et une nouvelle chaudière.
Une voiture électrique.
Voilà. Et vous, non mais il y a les calculs.
C'est quoi l'expression si ce mec se présente, je vote pour lui.
Mais là, attendez, on a fait un calcul avec quelques gens sérieux. Ouais. La réalité, c'est qu'on considère que une voiture plus une chaudière, c'est l'équivalent pour un ménage français d'une année de salaire.
Plus rénovation du logement, voilà. Disait France
Stratégie. C'est dans le rapport France Stratégie.
Voilà. Donc, si vous faites ça. Allez. Que vous faites et que vous considérez qu'il y a à peu près 35 millions de foyers en France.
Mais combien ça coûte tout ça, Emmanuel ?
Ça coûte 1000 milliards d'euros. Mais si vous dites que sur 10 ans, vous étalez les dépenses et que dans 10 ans, vous avez finalement des ménages qui ont des infrastructures flambant neuves, après tout, ça se discute, vous voyez.
Il devrait être ministre. 18h43, on revient dans un instant.
Ou à l'asile, ça dépend.
C'est selon.
On peut les deux. Hein,
là, n'empêche pas l'autre. Le triple A américain en sursis, on voit ça dans un instant. Puis ce rapport de la Cour des comptes, il nous a dit pique-pente de la Cour des comptes, qui fait un rapport aujourd'hui qui nous rappelle ce que tout le monde sait, c'est que la réforme des retraites ne va pas diminuer les écarts de niveau de pension entre les hommes et les femmes, finalement. On raconte tout ça dans un instant, à tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h45, c'est reparti pour le grand débat avec François Girolf, avec Eric Lewin et avec Emmanuel Le Chypre. Et pendant ce temps-là, donc, on a des marchés qui restent focalisés sur le plafond de la dette américaine, parce que, mine de rien, l'échéance, c'est mercredi prochain, 1er juin.
Ça peut être jusqu'au 9, disent quand même les experts de Goldman Sachs. Bon. Il y a quand même la latitude jusqu'au 9 juin.
Alors, ça crispe les marchés, parce que vous avez aussi l'agence de notation Fitch qui menace de supprimer le triple A américain si on ne trouve pas une solution à temps, finalement. Est-ce qu'on est encore dans du grand guignol comme quasiment tous les ans, ou alors est-ce qu'on va se mettre d'accord à la dernière seconde et puis basta cosy.
Ça crispe les marchés, pas vraiment. Hein. Quand on regarde.
Deux, trois séances un peu.
On a perdu 3%. Enfin, ça crispe les marchés, je crois pas du tout. Quand vous regardez l'indice de la volatilité, je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas chez Guillaume Sommerer. Il est à 20. Ouais. Et quand on regarde le CDS, il est à 150. C'est l'assurance défaut contre un risque aux États-Unis. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a le sentiment quand même, quand on regarde les marchés, qu'il y aura un accord à la dernière minute.
Comme toujours.
Maintenant, c'est vrai que des deux côtés, ça se radicalise quand même. Moi, j'ai écouté un peu sur CNN, c'est quand même chaud entre les deux parties. Mais comme on n'a pas de précédent dans ce cas de figure, sauf une fois, en 1979, ils avaient fait défaut sur 150 millions d'obligations. Et le Trésor américain avait dit, nous, on a eu un problème, finalement, de comptabilité, on a eu un problème d'envoi postaux, etc. Donc, c'était passé comme une lettre à la poste. Sauf que le lendemain, le 10 ans américain avait pris 60 points de base. Voilà. Donc, c'est le seul précédent qu'on a vraiment. 2011 avec Obama, ils sont un petit peu bagarrés, mais ça n'a pas été plus loin que ça.
Ouais, c'est pas vrai.
Non, ça n'a pas été plus loin que ça. T'as pas eu, Emmanuel, un défaut sur la dette.
Non, mais t'as eu des conséquences importantes.
Après?
Ah non, mais après, on peut pas dire que on peut pas dire qu'on est dans le grand guignol et que finalement ils vont trouver un accord et
ah non, hop, je t'ai pas dit ça, je t'ai dit qu'on va trouver un accord mais qu'après la problématique du déficit budgétaire américain à 6% du PIB est posée.
Absolument. Alors, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé en 2011, on voit bien que même quand un accord a été trouvé, ça a pas été sans conséquence sur les finances publiques puisque l'accord a été obtenu au prix d'une réduction importante des dépenses publiques et notamment des dépenses publiques d'investissement et que ça a eu des conséquences sur la croissance américaine au cours des années qui ont suivi. Là, les simulations qui sont faites, c'est que si on est dans un scénario de la même ampleur qu'en 2011, bah, sur une croissance américaine qui était prévue autour de 1% l'année prochaine, on va être plutôt à 0,5 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas neutre. Et puis, ça aura des conséquences sur les émissions de dette aussi. C'est-à-dire que là, si on a un relèvement brutal du plafond de la dette, ça veut dire qu'il va y avoir un appel d'air sur les émissions, que ça va absorber de la liquidité, etc. Donc, c'est pas la catastrophe. Mais on peut pas dire que...
Quand on regarde quand même le 10 ans américain, il est passé en un mois que de 3,50 à 3,75. C'est beaucoup, 25 points de base.
Ça reste les États-Unis.
C'est pas la catastrophe, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Bon. C'est vrai que on va trouver un accord. Après, le plus dur commence parce que je crois qu'on aura quoi, un déficit public qui est à 6% du PIB.
C'est forcément tendu. Donc, il y aura un vrai problème. Vous êtes à un an des élections.
Qu'est-ce qu'il nous dit, le Keynésien?
Il est pas très inquiet sur la dette, hein, comme d'habitude. Non, mais si on vous avait dit il y a 15 ans que tous les pays, avancés seraient au-dessus de 100% du PIB, vous auriez dit que c'était pas possible, que les taux seraient jamais à ce niveau-là. Là, les taux réels sont extrêmement faibles. Quand on compare les taux à l'inflation, ça fait des taux très, très négatifs. Donc, moi, je vois pas l'urgence sur la dette. Et ce plafond-là, il paraît finalement, enfin, quand on regarde les plafonds d'avant et le drame qu'il y a eu pour les plafonds d'avant et qu'on voit celui-ci, on dit, finalement, à chaque fois, on dépasse le plafond beaucoup plus que ce qu'on imaginait.
Qui va assumer une impasse à un peu plus d'un an d'élections, quand même? Je sais bien que c'est dans 18 mois, mais
Les Américains, ils ont le sens du spectacle.
Les Républicains, ils sont quand même jusqu'au boutiste. Hein. Moi, je suis pas particulièrement démocrate. On peut aller à un défaut de paiement, c'est pas si grave que ça. On peut quand même se poser quelques questions, même si je pense qu'on va trouver un accord à la dernière minute.
Bon, ça va se passer comme ça. On suivra ça évidemment sur BFM Business. On va parler un instant de la réforme des retraites parce qu'on a eu ce rapport de la Cour des comptes. Encore un. Vous l'auriez entendu hier, il a été sur la Cour des comptes.
Mais pourquoi il est si virulent comme ça?
Parce qu'il...
Mais c'était pas contre...
Mais si je t'ai entendu, c'était terrible.
Ça n'était pas contre la Cour des comptes.
C'était contre son premier président.
Non plus.
Pierre Moscovici.
Mais non, c'est pas ça le sujet. Pas du tout. Ce que j'ai dit, c'est que cette institution, qui techniquement fait du très bon travail, n'a malheureusement aucun pouvoir institutionnel, n'a aucun pouvoir politique, et n'a pas beaucoup de crédibilité dans l'opinion, et une des raisons que je soulevais pour lequel, si vous voulez, elle n'a pas beaucoup de crédibilité dans l'opinion, c'est que quand vous mettez à sa tête, et ce n'est pas lié à la personne de Pierre Moscovici, c'est lié au fait que quand vous mettez à la tête de la Cour des comptes, qui est censé être le gendarme des comptes publics, quelqu'un qui a été ministre de l'économie, qui a été défendre à Bruxelles nos déficits, qui a dépensé... Alors,
Il a fait de l'austérité en 2012-2013. Hein.
Non, mais il était très, dans un gouvernement où il était peut-être obligé de le faire. Mais moi, je dis juste qu'en termes de crédibilité pour l'opinion publique, quelle est la crédibilité d'une institution qui a à sa tête finalement quelqu'un qui, en gros, est passé du camp des braconniers au camp des gardes forestiers. Voyez, parfois on dit que les meilleurs gardes forestiers ce sont les anciens braconniers. Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît pas très crédible quand vous voyez il a été dans un poste où et puis d'un seul coup il nous dit ah non, faut faire. C'est pas lié encore une fois à Pierre.
Oui, on entend bien.
Quand vous mettez, on aurait mis n'importe quel ancien ministre des Finances, vous comprenez que c'est un problème de crédibilité.
Est-ce que c'est pas le sujet qui intéresse personne? Franchement, j'ai l'impression que dans les années 90, Maastricht, les 3% et les 60% s'intéressaient. Mais maintenant, tout le monde s'en fout de cette
problème. C'est pas le problème de tous les rapports de la Cour des comptes.
Et après, sur le fond, le problème des rapports de la Cour des comptes, c'est que sur le fond, c'est très intéressant, mais fondamentalement, ça documente des choses qu'on sait déjà. Et qu'on n'est jamais sur le nœud du sujet.
Justement.
Il y a surabondance d'informations et de recommandations sur ce qu'il faut faire. Et le problème, c'est que personne ne nous dit jamais comment on fait.
Justement. Alors, celui-ci nous éclaire sur quelque chose qui est déjà connu, effectivement, c'est que cette réforme des retraites, bien qu'ayant été retricotée, amendée, à n'en plus finir, ne résout pas ce problème de l'inégalité des niveaux de pension entre les hommes et les femmes qui reste aujourd'hui cet écart de 40% en moyenne, nous dit la Cour des comptes.
Sauf 28 si on prend les pensions de reversion.
Pension de reversion, vous revenez à 28%, mais enfin quand même. Mais
c'était à 40% même. Il y a 20 ans, hein, oui. Sur les pensions de reversion.
Oui.
Si on prenait les pensions de reversion.
Oui.
Et d'ici 10 ans, ils estiment qu'on sera à 15%.
Voilà.
Donc il y a quand même de l'amélioration.
Comment est-ce que vous voyez ça, oui. François, finalement? Oui, on n'apprend rien. Bah, mais
ça, oui. Bah, ça reflète aussi les inégalités du passé qui sont moins importantes quand même aujourd'hui, les inégalités du travail qu'elles étaient à l'époque. Ça reflète le fait que le modèle de famille dans le passé était plus avec des femmes qui avaient des carrières plus hachées, etc. Les choses sont en train de changer de ce côté-là. Donc effectivement, elles vont aller dans le sens d'une amélioration. Après, il y a un sujet, je vais peut-être être un peu provocateur, dont on parle jamais, qui est que et dont on a parlé au moment de la crise des retraites, qui est de dire l'espérance de vie des ouvriers était moins importante que celle des cadres. Et on disait, du coup, il y a une inégalité. L'espérance de vie des femmes est plus importante que celle des hommes. Alors on le rappelle jamais parce qu'effectivement, ça paraît un petit peu bizarre de le rappeler, mais du point de vue d'un économiste, il va dire, finalement, dans le système de retraite, du coup, elle s'y retrouve aussi par ce côté-là.
C'est le problème de ce système très inégalitaire qui fait que selon que vous cotisez quelques pourcents de plus ou de moins, votre pension peut être amputée de quasiment 50%. Oui. 50% en moins sur le reste, votre pension pour les 30 années qui vous restent à vivre après la retraite, finalement. Oui, voulu entendre les syndicats nous marteler beaucoup plus plutôt que se focaliser peut-être sur la question de l'âge pendant des mois et des mois.
C'est quand même très emblématique de cette obsession de l'égalité où on voudrait qu'à la fin, finalement, tout le monde arrive avec la même chose en ayant eu des trajectoires différentes, des études différentes, en ayant travaillé des durées différentes. Bon, il y a un moment où ce niveau des retraites, il reflète quand même le parcours d'une vie.
Mais la réforme paramétrique, je pense que ça, elle gommait quand même des inégalités.
Alors, bien sûr, entièrement d'accord.
Il reflète de manière très disproportionnée. C'est-à-dire que s'il y a quelques années, vous n'avez pas travaillé, vous perdez énormément sur votre retraite. Et le système à points, effectivement, il permettait d'être un peu plus en proportionnel par rapport à ce que vous aviez contribué. Et là, c'est vrai que du coup, ça paraît injuste. Si vous avez une carrière incomplète et que vous êtes arrêté pour élever vos enfants, effectivement, vous êtes très pénalisé.
C'est touchant de voir quand même à quel point tout le monde regrette cette première réforme des retraites.
Parce qu'elle gommait une partie, peut-être pas toute, mais une partie de ces inégalités.
La réforme de 2019, c'était effectivement aujourd'hui une réforme que tout le monde presque plébisciterait. Mais vous savez, c'est toujours on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Hein. Donc on ne se rend pas compte à quel point cette réforme des retraites, elle était peut-être pas si mal que ça, celle de 2019.
Bon, une hystérie autour de cette question de l'âge, finalement, c'est ça qu'il faut comprendre.
Non, mais après qu'on soit...
Je veux dire, ça quand même...
Oui, mais si vous voulez, c'est exactement comme la question du débat sur la mixité à l'école. La mixité à l'école, comme les inégalités de retraite, sont une conséquence de ce qui se passe en amont. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez de plus en plus, de toute façon, de la non-mixité à l'école dans la mesure où vous avez de la non-mixité dans les quartiers. Si vous voulez de la mixité à l'école, il faut qu'il y ait de la mixité dans les quartiers. Et naturellement, il y en aura. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. En fait, c'est compliqué de corriger. Alors, la Cour des comptes fait des propositions, notamment sur l'idée que, il y a peut-être moins de choses à faire sur le nombre de trimestres, etc., mais peut-être plus sur la valeur.
Après, les femmes sont plus touchées par la réforme de l'âge, de la mesure d'âge, parce que beaucoup avaient gagné des années grâce aux enfants qu'elles avaient eus, et du coup, vous recompensez en quelque sorte cet avantage qu'elles avaient eu. Certaines pouvaient partir à 62 ans, pour être clair, et du coup, vont être obligées de partir à 64.
Oui, sauf que vous avez plus de femmes aussi qui ne bénéficient pas du principe des 25 meilleures années, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui font plus que 25 meilleures années et qui peuvent éliminer finalement du calcul leurs plus mauvaises années, alors qu'il y a des femmes qui n'ont même pas les 25 et qui ne peuvent même pas éliminer les...
Voilà. On va reparler de cette réforme des retraites dans 15 jours avec la proposition du groupe Liotte à l'Assemblée là, qui peut de nouveau faire touche à virer si ça se trouve. Ça serait évidemment l'autre grand feuilleton qu'on suivra sur BFM Business. 18h56, merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir. Dans le grand débat sur BFM Business, François Girolf, économiste à l'OFCE, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Et puis Emmanuel Le Chypre pour BFM Business.
Donnons de vrais pouvoirs à la Cour des comptes. Comme ça se passe dans beaucoup de pays étrangers. Mais
alors, il y avait une proposition.
Mais bien sûr que oui. Mais c'est ça. Mais
la Cour des comptes auprès du Parlement, c'est-à-dire comme le CBO absolument, aux États-Unis. Et du coup, ça donnerait du pouvoir au Parlement, mais on change presque de constitution parce que la Ve République, c'est le pouvoir de l'exécutif, presque tout puissant.
C'est pour ça
qui décide de tout.
C'est ce qui est agaçant, en fait. C'est qu'on est dans une espèce de théâtre où la Cour des comptes.
Je suis d'accord, il faudrait que ce soit un contre-pouvoir.
Finalement, ça n'intéresse que les journalistes. analystes qui vont épuiser quelques pépites un peu exotiques, quelques cas qui vont frapper l'opinion, etc. Et ce travail qui est un travail de qualité.
C'est un énorme travail.
Et qui est un travail de qualité.
Il se rattrape bien.
Mais pas du tout. Et perdu finalement. Et c'est ça qui est quand même désespérant.
Mais c'est lié à notre constitution de la Ve République.
C'est un peu votre tête de
décidément.
C'est un peu sa tête de turc.
Il manque de contre-pouvoir.
C'est un peu sa tête de turc du moment, j'ai l'impression, là, Corentin. Comme ça. Merci, messieurs.
Si vous voulez m'énerver vraiment, parlez-moi des vaches.
Ah oui, rapport de la Cour des comptes qui...
Le rapport qui nous dit qu'il faut diminuer nos cheptels parce qu'il y a trop de vaches qui pètent et qui rotent.
Oui.
Et que c'est pas grave. Si, de toute façon, qu'on n'aura pas de problème de souveraineté alimentaire parce que de toute façon, les Français, ils mangent trop de viande et qu'ils n'ont qu'à se mettre au régime.
Et là, il y a un vrai travail de fond.
Parce que le rapport est plus dans le fond. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a parfois des présentations qui sont faites de façon provocatrice dans le rapport, alors que le contenu du rapport est quand même très intéressant aussi.
Comme quoi, il y a une littérature abondante du côté de la Cour des comptes. Merci, messieurs. 18h58, on se retrouve dans un instant. Le journal, bien sûr. Et puis Change Now, le fondateur du salon Change Now au Grand Palais éphémère, qui sera avec nous dans 10 minutes sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.